pour des réponses immédiates. Lorsqu'il y a des convocations, des gardes à vue, etc., on se fait aider par des avocats, de la même manière, plutôt des avocats militants, par le syndicat des avocats aussi, avec qui on réfléchit à proposer des choses sur les libertés syndicales. Et puis, le plus possible, on ne fait aucune action seule. Enfin, on fait toujours des actions qui ont été décidées collectivement. Et pour avoir moi aussi été inquiétée et avoir été convoquée à la gendarmerie, à titre personnel, je ne me suis jamais sentie attaquée individuellement. Pour autant, c'est à 21h le soir. D'ailleurs, on était en réunion, tu te souviens, Julie ? On était en réunion féministe en visio. Et puis, voilà, ça sonne en bas de chez moi. Mon fils de 10 ans ouvre. Puis il me dit « Maman, il y a les gendarmes ». Tout de suite, il y a eu un mouvement syndical extrêmement important parce que je sais que c'était la CGT par ma personne qui était inquiétée. Et à chaque fois, on arrive à prendre cette hauteur et il y a toujours le collectif, la camaraderie, le mot camarade, il représente quelque chose dans le syndicalisme et jamais on laisse seul des camarades et jamais on se sent seul dans ce genre de poursuite.
Julia de Solidaire.
Comme la CGT, nous aussi on a un guide du manifestant et de la manifestante qui est disponible sur notre site et qu'on réédite régulièrement parce que je crois que ça fait partie des guides qui sont le plus pris. On a aussi une liste d'avocats et d'avocates militantes à disposition. Depuis septembre, on a mis aussi en place, lors de mobilisations, d'actions, un numéro anti-répression. On pensait que ça allait, qu'il allait y avoir beaucoup de répression le 10 septembre et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on mette un numéro au niveau national, voilà, pour aiguiller les camarades qui peuvent se faire interpeller. Bien sûr, quand il y a des interpellations, ben, comme la CGT, nous, on collectivise, c'est pas la personne qui est attaquée à titre individuel, c'est le syndicat qui est attaqué, donc c'est le syndicat qui sera derrière dans son ensemble. Et on essaie de médiatiser aussi l'affaire au maximum. Donc, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est lors de formations. Alors, on a des formations sur le SO, donc le SO, c'est plutôt le service de sécurité pour nous qui protège les manifestants et les manifestants en manif. Mais on s'entraîne aussi à faire des manifestations, des fausses manifestations, comme ce qui a pu se faire au village de l'eau à Mel il y a 2 ans maintenant. Ce qu'on est aussi en train d'anticiper là, enfin, on essaie d'anticiper si jamais un jour l'extrême droite arrive au pouvoir, ce qui est aussi possible. Donc voilà, donc là on a des grosses réflexions en interne sur comment est-ce qu'on sécurise nos données, nos locaux, comment on se sécurise aussi financièrement. Mais voilà, il faut absolument se protéger, pas avancer seul, collectiviser, médiatiser au maximum. Voilà, et puis ne pas renoncer à lutter. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent et nous on sera là toujours, le caillou dans la chaussure du gouvernement.
Donc nous, à la Confédération Paysanne, on n'est pas très très bon encore sur ce domaine de se protéger. C'est des choses qu'on essaie de travailler, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment dans notre culture, puisque enfin, de longue date, on a porté des actions de désobéissance ou même on a essayé de profiter justement de la répression et du fait qu'il y a des procès pour médiatiser des choses. Plus emblématique, c'est certainement José Bové, qui est quand même quelqu'un qui s'est fait connaître parce qu'il est rentré en prison suite à une simple action sur un McDonald's pour dénoncer à l'époque les accords de libre-échange sur lesquels on est encore. Voilà, il y a eu ça, il y a eu tous les procès des faucheurs d'OGM. Tout ça, c'était des actions aussi qui étaient revendiquées. Collectivement, on a encore décidé que toutes les actions, on continuerait à les faire à visage découvert, même si on se pose la question s'il faut vraiment continuer là-dedans. Puisque c'est vrai qu'on a eu aussi des procès qu'on a perdus, etc. Donc peut-être aussi que cette fête de retourner un peu la répression qui est faite contre nous pour s'en servir d'armes de communication, ça peut être aussi quelquefois des atouts, mais c'est vrai qu'à titre individuel, pour les personnes qui sont mises en cause, c'est quand même très très compliqué de supporter. Donc c'est vrai que c'est le point où il faut faire gaffe. Et puis il y a aussi quand même les risques de procès qui peuvent être aussi très coûteux. Il y a la répression d'État, mais il y a aussi la répression d'autres organisations agricoles qu'on a pu subir, notamment par rapport aux bassines, puisqu'il y a quand même une pression forte qui a été mise sur les paysans qui ont participé aux mobilisations, aux paysans qui ont prêté des parcelles, par exemple, pour les rassemblements. Voilà, il y a des choses assez virulentes. Il y a aussi des pressions qui ont été mises sur l'organisation syndicale à travers des subventions supprimées, voilà, des menaces carrément de mort ou d'incendier les fermes de porte-parole des Deux-Sèvres, par exemple. Voilà, c'est des choses quand même assez fortes. sur lequel on n'est pas défendu, puisqu'il y a des plaintes de déposer, il n'y a pas de suite. Voilà, il y a aussi cette répression-là qui est quand même aussi très compliquée à vivre pour les paysans, voilà, parce qu'en fait, on a des voisins et il faut quand même continuer à exister sur le territoire. C'est ça qui est compliqué aussi pour eux, quelquefois pour nous.
C'est-à-dire que là, on a beaucoup parlé des répressions et des attaques de l'État, mais en fait, il y a aussi les attaques de l'extrême droite ou des opposants.
Oui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'avec le racisme qui est de plus en plus visible, l'extrême droite prend de plus en plus de force, et on s'aperçoit aussi qu'on a des militants, et des militants notamment Antifa, qu'on doit protéger parce qu'ils se font attaquer par l'extrême droite. Voilà, on en a eu du côté de Lyon, qui se sont fait poursuivre dans les rues, en Bretagne, qui se sont fait aussi suivre dans les rues le soir. Il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les attaques de l'extrême droite. Ne pas oublier que l'extrême droite, elle tue. Petite pensée pour Clément Méric, qui était un camarade de Solidaires, qui a été tué en 2012 par l'extrême droite. Donc l'extrême droite, elle tue, elle se développe, et vraiment, il faut qu'on arrive aussi à se protéger et à lutter contre l'extrême droite. Ça nous conforte qu'on a raison de lutter contre ce qu'ils portent, quoi, tout leur projet de société. Et est à jeter dans une poubelle et à brûler.
Ces idées nauséabondes. Alors, sur l'extrême droite, nous, le point de vigilance, Julie l'a dit tout à l'heure, c'est sécuriser nos fichiers d'organisation, puisqu'on sait que le syndicalisme, notre syndicalisme en tout cas, nos deux organisations, seront dans la ligne de mire des gouvernements d'extrême droite s'ils arrivent au pouvoir. On sécurise d'ores et déjà nos manifestations, puisqu'on a déjà des attaques de groupuscules d'extrême droite dans les manifestations. Autour de la journée du 25 novembre, on a eu le collectif Némésis, fémo nationaliste d'extrême droite, qui se renforce, hein, qui essaye d'intégrer nos manifestations avec des opérations coup de poing, etc. Donc elles essayent de venir de plus en plus. On a eu, je crois que c'était en début d'année de 2025, une intrusion de groupuscules d'extrême droite aussi dans un débat à Paris. C'était un débat sur un collectif iranien, je crois, kurde, voilà, avec l'Union départementale de Paris. Ils ont été attaqués, il y a eu des blessés. Donc voilà, on est aussi de manière frontale dans la bagarre avec l'extrême droite au quotidien. Et c'est vrai que ce sont toujours des actions violentes.
Je prends la parole pour Basile Montmercy parce que récemment on a eu donc la violence policière et ça sort enfin et enfin c'est reconnu et on attend maintenant que la justice fasse réellement sérieusement son travail. Mais on a eu des attaques récemment pour le village de l'eau. Il y a un convoi vélo qui est parti de Gironde, de Bordeaux, qui nous a rejoint à vélo jusqu'à Sainte-Soline mais qui s'est fait arrêter sur une de ses étapes à Saint-Jean-de-Gély. Ils se sont fait, une des personnes a quand même été hospitalisée, se sont fait tabasser. Il y a eu une enquête et ça a été classé sans suite. Alors ce qui était étrange quand même, c'est que sur tout le long du convoi, la police les suivait à 5 mètres près. Par contre, le moment de l'attaque, la police n'était pas là. Les menaces de mort ont bien été redotées, les gens ont fait des menaces de mort à découvert. Donc ça a été reporté, on a eu une plainte et il y a quand même une enquête sans suite. On a eu quand même des camarades de Bassino Merci qui se sont fait tabasser, avec plusieurs jours d'ITT derrière, même plusieurs mois. On a eu aussi des présidents d'associations écologiques qui se sont fait menacer, déverser des pneus, des menaces au fusil, à tirer sur les portes, jusqu'à chez eux, donc chez eux. Donc on a tout ça, et en effet, il y a un genre de deux poids, deux mesures dont tu parlais, Nicolas, dû en fonction de qui attaque, la protection n'est pas toujours la même. Quoi.
Vous êtes toujours sur cette table ronde sur la répression policière. C'était le 10 janvier 2025, organisé par Bassine Non Merci.
On vient de faire un tableau assez noir et assez anxiogène. Le but, c'est pas d'en rester là, mais c'est justement pour avoir une vision complexe, parce que si on ne sait pas de où on est attaqué et de comment,
on ne peut pas après contrer le problème. Vous avez parlé de tout le soutien, enfin, tout l'apport juridique et comment vous vous êtes renforcé au fil des années sur le volet juridique. On a vu, pour les personnes qui étaient là à la prise de parole, Najat de la Legal Team des soulèvements, qui est venue justement parler de tous les procès qui sont en train de suivre. Et puis après, il y a un petit mot que vous pourriez peut-être aussi ajouter, c'est tout ce qui est lié aux soins psychologiques, à la bienveillance et à tous les événements festifs que vous organisez de façon à justement maintenir un collectif.
Je crois qu'on n'est pas encore au point sur tout ça vraiment à solidaire, même si on avance sur le sujet. Mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert justement sur toutes les luttes, sur les méga-bassines et toutes les luttes écologiques, c'est le prendre soin. Et je pense que c'est hyper important dans le milieu militant de prendre soin. Prendre soin, ça veut dire prendre soin de sa camarade à côté, prendre soin de son collectif, prendre soin de soi aussi, s'accorder des pauses, c'est aussi important. On n'est pas obligé d'être sur tous les fronts. Voilà, et on le voit dans les luttes, toute personne est importante, que ce soit d'être à l'avant ou d'être à l'arrière. Il faut prendre soin de nous et de nous tous.
C'est vrai que ça peut être un tableau sombre qu'on a dépeint, mais en fait, il y a vraiment des choses extrêmement positives dans les luttes, même celle-ci. Et c'était sympa cette journée, en vrai. Ça fédère aussi. C'est des moments d'une fraternité extrême. Quand il y a des camarades qui sont attaqués, quand il y a un ou une militante de la CGT qui est attaquée, c'est toute la CGT qui est attaquée. Et vraiment, à chaque fois, on a été à ce rendez-vous-là. Et quelque part, à chaque fois, ça nous galvanise et ça nous donne confiance, puisqu'on a peut-être une réflexion qui n'est pas la bonne. On se dit, si on est autant attaqué, c'est parce qu'on est autant efficace. Et donc, ça nous encourage plutôt à continuer. Et à chaque fois, on ressort vraiment avec la pêche. Malgré le côté répression, nous, ça nous... on fait corps et on se remobilise encore plus.
Un comédien de la compagnie Arlette Moreau.
Nous, dans le cadre de prendre soin de ce que l'on fait, il y a quelque chose qu'on a mis en place au sein de la compagnie, c'est une démarche de supervision. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire qu'on est accompagné par, là en l'occurrence, une personne psychologue qui va être au milieu du soin et donc que l'on rencontre. Et chacun de la compagnie est libre de venir le voir. C'est des rendez-vous collectifs. Et donc là, on peut faire exister des sujets individuels, mais aussi collectifs sur à l'occasion de cette performance, voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose sur effectivement le prendre soin. Pour nous, ce qui est très important, vous l'avez dit, c'est le soutien. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose à faire et que c'est difficile, mais qu'on n'est pas seul, on y arrive mieux. Et donc c'est pour ça que nous, on continue de cultiver la joie et qu'on continue, parce qu'on se sent légitime à le faire. C'est-à-dire, on continue d'aller dans la rue et on continue de faire des trucs. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir des alliés, d'exposer notre sensibilité, mais aussi sur d'autres sujets. Allons dans la rue, peut-être juste pour faire des trucs qui sont peut-être plus légers, peut-être plus fun, parce que ça permet déjà à ce que nous, on soit un peu plus ensemble, un peu plus capables, mais c'est aussi créer des espaces, et donc notamment le territoire de la rue, des espaces non dédiés, qui soient aussi un peu plus fun à fréquenter. Et ça, mine de rien, c'est aussi un combat. Voilà.
Nicolas, Confédération Paysanne.
Bien sûr aussi, on essaie de prendre soin de nos militants et de nos adhérents. Donc, comme tout le monde, on essaie aussi de faire corps, ça c'est important, de faire la fête ensemble aussi, de bien manger ensemble, ça, c'est important. Le moment où on a aussi mis des choses en place, c'est après Sainte-Soline. Après Sainte-Soline, il y a quand même eu un traumatisme, je crois, qui est un peu général, mais c'est tout le monde là, on essaie justement de mettre en place des yeux, des coutres, et de se faire aider justement par rapport aux gens qui avaient très très mal vécu ce moment-là. Voilà, c'est tout ça. Puis après, c'est aussi en interne du syndicat d'essayer d'avancer sur des choses pour protéger des gens, pour lutter contre les violences sexuelles, par exemple. Voilà, il y a un travail qu'on essaie d'accomplir pour arriver à aussi régler les conflits, parce que comme structure, il y a des conflits internes qui peuvent être des fois ressentis violemment, et il faut arriver à continuer à travailler et s'améliorer là-dessus.
Comme l'a dit Myriam, la journée d'aujourd'hui, elle reflète bien les luttes qu'on porte en général, c'est-à-dire on essaie d'avoir des bons repas, des moments conviviaux, des concerts à chaque fois pour pouvoir danser et en même temps un soutien fort. Pour ceux qui me connaissent, mon petit sujet qui me tient à cœur, des bambineries. Parce que c'est ça aussi, c'est remettre les enfants dans les espaces, arrêter de les séparer, de les mettre en garderie, et pouvoir revenir en famille sur des lieux de militance. Et puis après, petit aparté pour les femmes, c'est quand même souvent les femmes qui restent à la maison et les hommes qui vont manifester. Donc s'il y a une bambinerie, on peut venir aussi. Et donc c'est tous ces espaces qui sont importants. Ma dernière question, elle est beaucoup plus ouverte et après on passera aux questions dans la salle. C'est justement sur la résistance et sur l'avenir. Comment vous envisagez ça? Quel serait le message que vous voulez faire passer aujourd'hui à cette table ronde?
Je pense que ce qui fait la force du rapport de force, c'est d'être nombreux et nombreuses. Donc je pense que la priorité des priorités, c'est de s'organiser, c'est de se structurer pour pouvoir répondre. Là, en tant que syndicaliste, je dirais que la première chose à faire demain, en retournant au boulot, c'est de se syndiquer, de militer et c'est de se laisser des espaces de réflexion et de pouvoir établir des revendications. Et puis plus on sera nombreux, moins ils pourront nous faire plier sous la répression. Donc voilà.
Tout pareil. Oui, effectivement, hein, il faut absolument qu'on fasse nombre. C'est pour nous le seul moyen de résister. Et pour faire nombre, effectivement, j'ai envie de dire, syndiquez-vous. Rapprochez-vous aussi de tous les collectifs de lutte qui existent. Il y a par exemple Bassine Non Merci, il y a les Soulèvements de la Terre, mais il y a aussi sur tous les territoires, en fait, il y a des collectifs de lutte. J'ai en tête, notamment dans la Sologne, il y a pas mal de militants qui sont en train de se monter pour lutter contre Sterrin, qui veut monter son école d'extrême droite là-bas. Donc il y a des collectifs de lutte sur tous les territoires. Rapprochez-vous-en, luttons. De toute façon, je pense qu'aussi on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on lutte déjà. Il faut absolument qu'on arrive à élargir et à ramener le plus de personnes pour être le plus grand nombre face à l'extrême droite, aux multinationales et à ce gouvernement qui nous fracasse, on va dire ça comme ça. Donc, mais bon, on sera là, on résistera toujours.
C'est clair que je pense que c'est global, enfin, ensemble qu'il faut qu'on arrive à trouver des nouvelles formes de lutte et à être de plus en plus nombreux. En tout cas, ce qui est un peu inquiétant quand même, c'est qu'on a ce sentiment que le gouvernement est de plus en plus autoritaire, a des formes de plus en plus autoritaires pour se gouverner. C'est bien la preuve que leur base n'est pas suffisante et c'est ça qui est inquiétant. Comment on peut arriver à trouver des modes de lutte justement pour ne pas attaquer frontalement et c'est vrai qu'on a pu voir même dans la lutte pour les bassines, on a fait des actions, des manifestations tous ensemble où finalement on allait où on n'était pas attendu et c'était là qu'on était le plus performant. D'essayer d'attaquer frontalement quelque part, par moment, à mon avis, c'est pas la bonne méthode. Quelque part on s'use et quelque part ça aboutit à rien et la confrontation, quelquefois, elle n'est pas toujours bénéfique.
Se rassembler, se syndiquer, être ensemble, c'est légal, c'est légitime et c'est juste. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut faire.
Alors, on va prendre quelques questions. Les intervenants ont fait un énorme effort et un grand merci parce qu'ils ont été concis à chaque fois, ce qui a permis de donner la parole à chacun de manière équilibrée. Du coup, je vous demanderai de faire la même quand vous prenez la parole, c'est de rester concis pour qu'il y ait plus de gens qui puissent parler. Et puis, on va essayer un petit exercice qu'on avait essayé au village de l'eau. C'est qu'on va essayer de faire un homme, une femme, un homme, mais de justement alterner parce qu'autrement, naturellement, les hommes se sentent légitimes de parler et les femmes passent derrière.
Je vais profiter de la présence de la compagnie Arlette Moreau et des syndicats. J'ai milité il y a fort longtemps avec Paysans Travailleurs et il y avait à l'époque une compagnie de théâtre. Ce théâtre du Trèfle nous a formés par l'improvisation à la lutte dans la rue. Et donc, je sollicite les syndicats de se mettre en relation avec la compagnie Arlette Moreau pour nous former lors des luttes à des choses tout à fait passionnantes.
Merci. Alors, on parle de la compagnie Arlette Moreau parce que nous, on est là. Mais en vrai, il y a plein d'autres compagnies. Il n'y a pas que nous. Il y a plein de compagnies qui font des performances de rue et qui sont capables, effectivement, de vous accompagner si vous avez envie de faire des trucs rigolos. Nous, il s'est avéré que plusieurs fois, on s'est retrouvés dans des cortèges à l'occasion de nombreuses manifestations et qu'on a essayé de faire des trucs qui sont plutôt rigolos pour s'amuser, donc de théâtraliser certaines situations, pour fabriquer un petit peu de fun dans ces moments difficiles.
Voilà. Effectivement, c'est des choses qu'on peut faire déjà nous dans le syndicat, notamment avec le théâtre de l'opprimé. On le pratique notamment lors de formations. Mais ce qu'on peut faire aussi, par contre dans les manifestations aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec des camarades qui sont habitués à faire plus de l'animation. Je pense notamment sur les dernières mobilisations dans le cortège solidaire à Paris. Il y avait Planète Boom Boom qui a pu animer un peu le cortège solidaire, où c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des slogans qui étaient scandés. Il y avait à la fois des slogans, il y avait des chansons, il y avait de la musique, il y avait de la danse. Le côté festif est aussi assez important pour garder le goût de militer, pour garder l'espoir et la pêche, quoi.
Nous, on utilise beaucoup le spectacle vivant comme vecteur d'éducation populaire. Ça permet aussi d'apprendre des choses. Il y a aussi des outils pour militer. Et donc, on utilise beaucoup le spectacle vivant comme ça.
Cet après-midi aussi prévu des retransmissions indirectes par des comédiens de ce qui se passe dans la salle du tribunal. Donc on va les rejoindre tout à l'heure.
Bonjour, moi je suis à la CGT et je suis fier que la CGT soit CGT des Deux-Sèvres. Je suis dans le Artiste, syndicat français des artistes. Je te le dis au passage, ça existe, hein, pour les salariés, pas uniquement pour les patrons. Donc fier que la CGT soit membre de ce collectif, fier que la CGT soit membre des collectifs de lutte pour la Palestine, c'est pour moi la manière de faire sens, de faire masse par rapport à toutes les répressions que nous subissons. Juste pour répondre sur la répression, il y a les répressions comme aujourd'hui, par exemple pour Sainte-Soline, sur les leaders syndicaux, mais il ne faut pas oublier toutes les petites répressions qu'il y a eu après Sainte-Soline. Il y a eu plein de copains et de copines qui ont été convoqués, qui à la gendarmerie, qui au tribunal, pour des contraventions, des militants syndicaux ou pas syndicaux, ou associatifs ou pas associatifs, toutes ces petites choses invisibles et tout. Notre seul espoir par rapport à la montée de l'extrême droite et aux répressions sur les marches des fiertés, sur les occupations de théâtre, une copine me le rappelait tout à l'heure, lorsque nous avons en 2021 les gens du spectacle occupés les théâtres, il y a eu l'extrême droite qui est venue à Bordeaux, qui est venue à Nantes, qui est venue dans plusieurs villes, à Orléans, etc. etc. Hein, c'est l'autre face cachée du capitalisme, ça s'appelle, l'extrême droite. Donc le capitalisme, il a vu la solution, et ben il envoie ses nervis avec tout leur corps réactionnaire. On est là-dedans et nous, notre seule solution, c'est de faire masse, quel que soit ce que nous représentons en tant que syndicat, collectif, association, comme s'il se passe aujourd'hui. C'est ça notre force.
Merci.
Dans cette émission, vous le savez, on a souvent évoqué Serge et Michael qui se sont retrouvés dans le coma suite à la féroce répression policière de Sainte-Soline 2023. Vous allez maintenant entendre Ludo, Gilet jaune, et proche de Michael.
Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ludovic et moi je suis un très proche de Michael qui était blessé à Sainte-Soline. Aujourd'hui Michael il n'est pas venu, mais il vous passe le bonjour. Il est très fatigué, il a travaillé cette nuit. Il va bien, malheureusement il va bien, mais sa mémoire c'est pas consolidée. Et puis comme vous avez vu les images qui ont été diffusées par Mediapart et Libération, il ne s'est rien passé à Sainte-Soline. Il n'y a rien eu. Les gendarmes, rien. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas insulté, ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas blessé. Il y a 2 ans et demi d'enquête qui sont derrière, hein, avant qu'on diffuse ces images. Moi, je suis le compagnon de la mère à Michael. Je peux vous dire qu'on en a subi des vertes et des pas mûres par la gendarmerie. Michael, il était en train de se faire opérer, il était entre la vie et la mort. Et la gendarmerie est venue nous appeler. Mais parce que au téléphone, sa mère les a envoyés chier. Parce qu'elle leur a dit d'aller se faire foutre parce qu'ils voulaient les affaires de Michael. Et ça leur a pas suffi, ils se sont déplacés à Poitiers, venir nous voir. C'est son avocate à Michael qui s'est interposée pour leur dire de faire demi-tour. Peu de temps après ce qui est arrivé à Michael, on est venu avec nos gilets jaunes, et puis on s'est dit, tiens, il y a la FSMEA au château de Chambord qui sont là, et nous, on veut défendre le peuple, on veut un avenir meilleur pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que Michael, il a quand même un enfant de 12 ans. Qui pleurait toutes les nuits en nous demandant est-ce que papa il va s'en sortir. Et ces braves gens de la FSMEA, entourés par quelques-uns du RN, nous ont jetés dehors du château de Chambord. Nous, les gilets jaunes de blanc, on n'avait pas le droit de manifester, on n'avait pas le droit de s'exprimer. Alors là, aujourd'hui, je voulais vous dire merci à vous tous, surtout les syndicats, la Confédération Baysanne, et passez-nous merci, parce que sans vous, aujourd'hui, Michael, ça serait quelqu'un qui serait oublié, au milieu de nulle part, sans avocate, parce qu'un avocat, ça coûte super cher et que nous, on n'a pas les moyens. Merci à vous.
Bonjour. Lorsqu'on arrive à être nombreux, ça peut changer des choses. Vous l'avez exprimé d'une certaine manière. Ce n'est pas uniquement en termes de nombre tout pur, mais un nombre d'organisations. J'en profite pour remercier d'une part la Confédération paysanne qui, à un moment donné, s'est ajoutée à la lutte contre les bassines en Deux-Sèvres, pour commencer, et les autres associations qui l'ont fait par la suite, parce que ça a énormément changé la situation, ça a énormément changé la capacité d'informer sur les différentes problématiques. Pas seulement sur les bassines. Moi, je ne crois pas trop non plus actuellement en les vertus de l'État. Vous êtes au courant des recours devant la justice pour les bassines. On a quand même eu quelques succès, que ce soit pour les demandes des volumes prélevables des irrigants, que ce soit pour la réduction des bassines en Poitou-Charentes. Certains se souviennent qu'il y avait au départ 19 projets portés par l'association des irrigants. Ils ont perdu 4 momentanément parce qu'on a porté plainte. Et c'est aussi grâce à l'aide sollicitée par les associations du Conseil national de la protection de la nature qui s'est aussi impliquée et qui a témoigné avec, pour dire, il manquait une demande des dérogations pour l'outarde canneberrière notamment. Et c'est pour ça qu'actuellement, 4 réserves sont au stand-by, parce qu'il faut d'abord apporter cette demande de dérogation et ils ne sont pas sûrs de pouvoir le faire. Donc, cette coopération des organisations, c'est l'une de mes clés.
Il y avait aussi la désobéissance des ordres qu'on pouvait nous donner en tant que fonctionnaire. Pendant la lutte des Gilets jaunes, à l'hôpital de Toulouse, il avait été demandé aux soignants qui étaient aux urgences de signaler les personnes qui étaient blessées et qui arrivaient avec des gilets jaunes et de les signaler à la direction qui ferait remonter à qui de droit. Les soignants à Toulouse se sont fortement opposés et ont dit non, ça ne fait pas partie de notre rôle de soignant, donc non, on ne le fera pas. Voilà, donc c'est aussi ça la résistance. Voilà. Je regardais les derniers chiffres. En 2024, il y a eu 142 disparus de personnes qui ont été assassinées pour des faits écologiques. Assassinées ou qui ont disparu. Enfin, 177 en 2023. Enfin, voilà, il y a 3 fois plus de risques d'être assassiné quand on défend l'environnement que quand on défend les droits humains. Donc je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête. Donc grosse pensée pour Michael. Voilà, j'ai plein de militantes qui me viennent en tête. Là, j'ai une grosse pensée pour Amy Freys parce que je suis du Tarn-et-Garonne, voilà, et que du coup ça nous a beaucoup touché à l'époque. Donc il faut lutter et c'est dur des fois effectivement quand on perd des proches.
Donc je vais lire ce qu'a écrit la maman de Michael. 3 ans après Sainte-Soline 1 et 2 ans et demi après le massacre Sainte-Soline qui a fait plus de 200 victimes, dont 4 très graves, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour une représentation théâtrale de justice. Nos 4 camarades des Soulèvements de la Terre, de Bassines-Montmercy, de Solidaires et de la CGT sont poursuivis pour avoir organisé une manifestation dans le but de défendre l'eau, notre bien commun, et de dénoncer une bassine illégale. D'ailleurs, la justice leur a donné raison. C'est pourquoi nous demandons que toute poursuite soit abandonnée contre eux. Michael et le collectif Gilets jaunes 41, soutien de Sainte-Soline, nos Bassaranes.
Avant de se quitter, un mot avec Myriam. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Quelles sont tes fonctions à la CGT ?
Je suis secrétaire confédérale au national et je suis aussi co-dirigeante de l'Union départementale du 95.
C'est vraiment très chouette de voir la Confédération paysanne, Sud Solidaire et la CGT ensemble. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, hein, c'était le cas au village de l'eau et sur ces luttes anti-bassines. On a l'impression qu'il y a des bisbilles en national, mais sur le terrain, à la base, c'est main dans la main.
Oui, alors les alliances avec les associations de manière générale, avec les autres organisations syndicales et avec la Confédération paysanne, c'est des choses qu'on fait de manière très régulière. C'est un travail en commun qu'on porte donc sur les revendications écologiques. On le porte aussi sur les revendications féministes. On travaille beaucoup avec l'associatif. On a aussi beaucoup de travail en commun sur le logement, par exemple. Donc plein de domaines où on arrive chacun et chacune de nos associations, de nos organisations à trouver des points communs, à avoir des revendications qui sont communes et à pouvoir les porter ensemble. Ça nous rend beaucoup plus forts d'être ensemble.
Et ça a été mentionné d'ailleurs pendant cette table ronde, là, avec Julie de Sud Solidaire, bah, vous travaillez sur d'autres dossiers, notamment féministes.
Voilà, avec Solidaire, avec la FSU, on travaille en commun sur les questions féministes, sur les questions écologiques et là, sur aussi les questions de progrès social. Par exemple, hier, on appelait nos trois organisations syndicales à une journée de grève et de manifestation pour lutter contre le budget austéritaire.